Carnet de campagne avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr. France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Nous ouvrons les carnets de la dernière semaine de l'année avec des entretiens inédits en respectant d'une part les initiatives dans le département de Haute-Garonne où s'installe le jeu des 1000 euros et d'autre part les multiples propositions de solutions en provenance du reste de l'Hexagone. En Haute-Garonne, une initiative louable pour aider les plus jeunes à maîtriser le verbe en leur soumettant l'écriture de livres. Et ça marche. Le dispositif s'appelle « Réparer le langage, je peux ». Nous resterons dans le monde de l'enfance, monde qui n'est pas épargné par les inégalités, avec une recherche-action qui touche tout le territoire et qui consiste à utiliser les avancées en neurosciences dans l'éducation. Cette démarche portée par l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance ouvre également un volet d'initiative lauréate de la fondation La France s'engage, que nous allons vous détailler chaque jour de la semaine.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Sandrine Vermeaux-Desroches, bonjour.
Bonjour, enchantée, Philippe Bertrand.
C'est suite au scandale, la tragédie du Bataclan en 2015 que vous avez décidé de créer votre association?
Oui, alors en septembre 2015, effectivement, Alain et moi, donc Alain Pierre et moi-même, nous voulions agir auprès des jeunes et en mêlant nos deux compétences essentiellement, qui sont l'écriture, mais aussi l'école, l'éducation, le professorat. Et on était à Paris le jour de la tragédie, et là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à ne rien faire. Il nous a semblé que nous, à notre mesure, avec l'équipe qui nous accompagne, on pouvait agir. Et agir, c'était aller dans les classes, utiliser les mots, dialoguer, écrire ensemble pour pouvoir comprendre le monde. Parce que quand il y a un rétrécissement du langage, un rétrécissement de la pensée, du débat, on peut plus comprendre le monde. Et c'est parfois la violence qui fait place.
Alors, la première expérience de réparer le langage, je peux, au nom de votre association, a été réalisée avec des collégiens ?
A été réalisée avec des collégiens. C'était sur l'établissement Jean Rostand à Balma, dans la région toulousaine, avec la principale adjointe et la principale. Nous avions recherché des élèves qui étaient en difficulté, soit en décrochage scolaire, soit pas seulement en rupture avec l'école, mais aussi parfois dans une extrême timidité. C'était assez drôle même parce que à la fin de cette expérience, quand ils ont écrit le roman, quand il y a eu le salon du livre des collégiens, parce qu'à la fin de cette écriture, le livre est publié, il y a un salon du livre, il y a une jeune fille qui a dit « Oh là là, avant, franchement, j'étais timide et maintenant je suis extrêmement populaire. » C'était drôle parce que... Coup, en fait, non, ce qui était beau, c'était cette estime de soi et ces jeunes qui disaient ah, « Mais moi, mon livre, je suis fière et plus tard, je le montrerai à mes enfants. Mmh. » Et du coup, le rapport au livre est devenu absolument différent.
Mais alors, c'est une coécriture que vous proposez?
Absolument. Et ça, déjà, c'est un travail donc d'écoute de l'autre, de respect de l'autre et des opinions de chacun. Après, c'est vraiment une organisation. Parce que il va y avoir tout un travail de mise en commun. On écrit. Alors avant d'écrire, on parle tous ensemble. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Justement, on passe par l'oralité. C'est bien pour ça que nous avons des jeunes allophones, mineurs isolés, qui ont travaillé avec nous, qui travaillent chaque année avec nous, avec le lycée Lucas de Nouveau. Parce qu'on passe par la parole avant de passer par les mots.
Oui, mais Sandrine, ça prend du temps sur le programme scolaire.
En fait, les professeurs travaillent une séance d'écriture par semaine, du mois de septembre au mois de mars. Ça prend du temps, mais on en gagne en fait aussi.
Et alors, vous avez trouvé une maison d'édition?
C'est nous-mêmes qui faisons tout le travail éditorial. Donc, Alain Absir fait la direction littéraire. Je m'occupe davantage de la direction éditoriale parce que j'ai fait justement ce master en édition. Et nous diffusons ces livres en librairie, puisqu'en fait, ces livres peuvent être trouvés, commandés, ils sont disponibles en librairie. Mmh. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que les jeunes sont eux-mêmes les acteurs d'une publication de littérature de jeunesse.
Ouais. Et alors, et c'est pas rien, parce qu'en 5 ans, vous en êtes déjà à 63 romans collectifs publiés.
63 romans collectifs avec des thématiques diverses, un catalogue qui peut même recouper les programmes. Nous serons à 80 romans à la fin, enfin, au mois de juin, avec un défi un peu fou. Alors là, l'auteur, c'est Alain Pierre qui participe sur ce défi. C'est l'écriture d'un roman collectif young adulte, parce qu'on n'avait jamais fait avec des plus grands que le lycée, avec 107 élèves de 3 BTS différents.
Et chaque année, il y a des salons du livre hors normes, grâce à vous, à Toulouse et à Paris.
Voilà. Alors, 2 salons du livre, un salon du livre à Toulouse et un salon très important à la Société des gens de lettres. Et dans notre projet, nous avons une diversité d'établissements, une diversité d'élèves et toutes ces familles sont réunies pour parler ensemble de leurs enfants, de ce livre, et c'est vraiment un moment magique.
Réparerlelangage.fr pour l'adresse.
On peut aussi nous écrire sur réparerlelangage@gmail.com. Et puis j'en profite aussi, puisqu'on a l'antenne, pour remercier tous nos partenaires, plus particulièrement la SOFIA, le conseil départemental, la fondation Vera Micheski, la POTE, enfin voilà, tout ce qui nous soutiennent, parce que c'est important. Notre projet est collectif, mais aussi, nous sommes à plusieurs. Sinon, si on n'était pas tous ensemble, on n'y arriverait pas.
Merci Sandrine.
Merci Philippe Bertrand.
France Inter, carnet de campagne.
Il y a quelques semaines, nous parvenait un courrier d'Evelyne, coordinatrice administrative et financière d'une association rare et donc précieuse. Cela se passe à Marseille, siège de l'association Juste, traduisez Justice et Union pour la Transformation Sociale, dont le fonds d'activité consiste à monter des expériences qui participent à une société inclusive avec les personnes les plus fragiles et souvent exclues du système. On touche là à une très grande précarité à laquelle les savoirs universitaires et scientifiques peuvent apporter une réponse. Cela peut étonner, mais il s'avère que des expertises scientifiques sont utiles quand il s'agit de monter des expériences concrètes afin de réduire ces injustices sociales. Le premier souhait de l'association est de renforcer la coopération entre les institutions, l'État, les associations et les personnes concernées par des questions de précarité, de vulnérabilité. Illustration, le lieu de répit. Ce lieu accueille à Marseille des personnes en situation de crise psychique et il peut être une bonne alternative à l'hospitalisation psychiatrique. Cet espace n'est pas médicalisé et son équilibre repose sur l'entraide, l'ambiance chaleureuse et la participation d'un binôme de salariés présents de 9h à 21h et une astreinte téléphonique de 21h à 9h. Le programme de rétablissement est rigoureusement suivi et il procède entre autres d'entretiens individuels et d'entretiens en réseau avec les proches de la personne concernée. La durée d'hébergement est plafonnée à 3 mois et sur chaque expérience menée, l'idée est d'améliorer les procédures afin d'essaimer partout où cela est possible et surtout utile. Ce travail est financé par l'ARS, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, la Fondation de France et le département des Bouches-du-Rhône. Une autre recherche-action est actuellement menée sur les sans-abri dans une perspective de zéro sans-abri sur l'aire marseillaise. Vous allez trouver à nos pages d'émission les liens avec l'association Juste. Nathalie Casso-Viscarini, bonjour.
Bonjour Philippe.
Cette semaine, nous nous intéressons à différents lauréats du prix de la Fondation La France s'engage. Alors chaque année, il y a des lauréats, enfin tous les 6 mois, il y a des sessions avec de grands mouvements associatifs à l'exemple du vôtre, Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Merci Nathalie au passage de ce que vous faites depuis plus de 30 ans au bénéfice des enfants. Vous avez été nommé en 2017 co-président de la commission Petite Enfance, éradiquer la pauvreté des enfants, en délégation interministérielle à la prévention de la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Et puis vous avez fait partie du comité des 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours sont les jours essentiels, c'est-à-dire les 3 premières années de l'enfance où tout se développe. Un scandale aujourd'hui, Nathalie, de savoir qu'un enfant ici en France sur 5 vit sous le seuil de pauvreté.
Absolument, c'est un scandale et on devrait être en capacité d'accompagner nos enfants aujourd'hui puisqu'ils vont fabriquer la société de demain. Si les enfants vont pas bien, quelle société va-t-on préparer demain? On travaille avec une équipe très très professionnelle, très soudée, aussi avec beaucoup de pays, une quarantaine de pays à l'international pour comprendre comment les autres pays se débrouillent avec cette crise et les crises en général et quels moyens ils mettent en œuvre pour prévenir. pour évaluer et pour mettre en place des approches vraiment efficaces et à fort impact social.
Alors c'est très technique, mais l'avancée des neurosciences permet de créer de nouveaux outils au profit des enfants.
Exactement, les neurosciences en fait soit confirment des données qu'on avait déjà, soit les infirment ou les précisent. Et c'est pas une révolution, c'est pas non plus une mode, mais ça nous permet de plonger, faire une plongée scientifique dans notre cerveau et puis de voir quelle est l'interaction de ce qu'on vit tous les jours sur le développement des enfants et le développement des adultes. Et ça, c'est fondamental parce que ça nous donne des clés de lecture pour comprendre comment on peut mieux avancer dans la vie, faire de la prévention précoce pour mieux accompagner les enfants et puis se parler un langage commun aussi.
Oui.
Quand on est professionnel et parent, parce que sinon on se comprend pas bien.
Les neurosciences nous apprennent par exemple que chaque seconde, c'est plus de 1000 nouvelles connexions neuronales qui se créent grâce aux interactions entre les enfants et leurs proches. Il y a un souci, avant de parler de ce que vous proposez dans l'action Accompagne-moi, c'est une réalité sociale, économique, culturelle, de ces enfants qui partent avec moins de chances que d'autres.
Exactement. Si on fait pas de prévention précoce, on creuse les écarts. Donc nous, on a décidé de lutter contre les inégalités de naissance. Et dès les 1000 premiers jours, c'est-à-dire avant la naissance déjà, c'est à peu près de l'entretien prénatal précoce jusqu'aux 2 ans de l'enfant, on accompagne les parents qui vont accompagner leurs enfants, puis après on accompagne les professionnels et les parents pour mieux comprendre comment se développe un bébé grâce aux neurosciences et comment on peut prévenir par exemple le stress et l'isolement affectif qui sont des maux terribles de notre société aujourd'hui et qui vont après être un gros facteur de risque et qui va créer des écarts dans les apprentissages. Et plus on a de facteurs de risque, plus en face on va essayer de mettre en place des facteurs de protection pour nos enfants. Et la prévention précoce est un facteur de protection très important. Et la première chose qu'on dit aux parents, c'est vraiment de se faire confiance aussi et de se renseigner, de rester en veille sur les nouvelles connaissances, parce que grâce à ça, on va pouvoir mieux intervenir sur le parcours de l'enfant.
Oui, alors, donc avec ce soutien de la Fondation La France S'Engage, vous allez déployer à l'échelle nationale ce programme d'accompagne-moi. En quoi consiste-t-il ?
Alors, c'est beaucoup de sensibilisation sur le développement de l'enfant. Voilà, comprendre, décrypter tous ces concepts scientifiques et qui bougent tout le temps pour les mettre à la disposition de chacun. Et puis, mettre en place également ce qu'on appelle une approche d'amélioration continue des pratiques qui existe dans beaucoup de pays, mais pas encore en France. C'est pas du tout des programmes, c'est une approche qui permet à chacun, dans une ville, qu'on soit professionnel de la périnatalité, de la petite enfance ou de l'éducation nationale, de faire un état des lieux de ces pratiques éducatives auprès des enfants et des parents. On sait aujourd'hui que 82% des parents et des professionnels accompagnés ajustent leurs pratiques quotidiennes grâce à ces connaissances et à cette approche très construite. Et 15 villes nouvelles seront accompagnées grâce à la Fondation La France S'Engage. Et puis le dernier né, c'est ce maillon de maison des 1000 premiers jours qu'on a commencé à mettre en place à partir depuis le 20 novembre dernier, grâce à cette inauguration à Arras avec le docteur Boris Cyrulnik, c'est-à-dire accompagner chaque parent dès la naissance de l'enfant et pendant la première année, dans des groupes de pères aidants, mais aussi avec un facilitateur qui permet d'accompagner ses parents, de briser la solitude et d'être tous ensemble unis et solidaires et en présentiel pour relever tous ces défis, parce que l'éducation, c'est pas un long fleuve tranquille. Et on a besoin d'être accompagné par des personnes fiables, avec des connaissances fiables et sans jugement et sans stigmatisation. Voilà, donc ces maisons des 1000 premiers jours, elles vont intégrer cette approche d'amélioration continue des pratiques à l'échelle des villes.
Pour en savoir davantage, j'ai le site eduensemble.org pour l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Merci Nathalie.
Merci beaucoup Philippe.
Et puis avant de jouer avec Nicolas Soufflet, une petite brève sur le monde tel qu'il va parfois, moins mal qu'on ne le dit, lu dans la revue Silence du mois de décembre aux États-Unis. L'administration Biden a programmé son plan de transition énergétique dont les objectifs de production d'électricité en 2025 seront de 37% de solaire contre 4% actuellement, 36% d'éolien, 12% de nucléaire contre 20% actuellement, 5% d'hydroélectrique et 2% pour la biomasse et la géothermie. On peut rêver.